Donc moi je vais vous parler un petit peu d'un travail que je mène depuis 4 ans. Donc juste pour dire un peu d'où je parle, donc je suis enseignant moi depuis presque 25 ans en élémentaire sur la région lyonnaise. J'ai fait donc une direction d'école pendant 7 ans que j'ai arrêté en 2009 et depuis donc j'ai repris un parcours un petit peu d'études. J'ai fait un DU donc en neurosciences et pédagogie à Lyon avec Lyon 1 et l'UFM. Donc je travaillais sur la lecture, apprentissage de la lecture et le rôle de la mémoire, donc dans la lecture et la compréhension. Et ensuite j'ai continué à Lyon 2 en psycho. Alors c'est un cursus de formation à partir de la pratique, donc c'est relativement autodidacte. Et j'ai travaillé sur la question du plurilinguisme en fait et de la diversité des langues. Donc je voulais témoigner de ça parce que je trouve que ça, au fil de mon travail, donc depuis 3 ans là-dessus, je me rends compte que c'est justement un vecteur important de travail avec les parents, ce qui n'était pas au début tout à fait l'idée que j'en avais, mais c'est quelque chose que je constate et je me suis aperçu dans d'autres articles qu'effectivement c'était souvent une incidence assez forte de ce travail, puisqu'on arrive à travers cette question des langues à contacter les parents et en plus à les mobiliser, à les impliquer. Donc très schématiquement, hein, je vous propose juste de vous dire un petit peu comment se fait cette démarche. Donc il s'agissait en fait de problématiser cette question du plurilinguisme, parce qu'en fait elle n'est pas problématisée, elle reste à l'état de problème souvent dans la tête des gens, du côté des parents qui pensent que ça peut être un problème. Alors je parle évidemment dans un cadre qui est celui de l'éducation prioritaire et non pas le cadre du plurilinguisme de milieu favorisé où au contraire là c'est un atout. Et d'ailleurs, c'était un des points de départ aussi de ma recherche, c'était de se demander comment ça peut être à des moments un atout ou au contraire une sorte de handicap. Et je me suis aperçu que c'était très indépendant de la valeur de la langue. Hein. On dit souvent que c'est le fait que la langue a une valeur marchande, par exemple, qui fait que le bilinguisme va être positif ou non. Ça va au-delà et c'est d'autres choses qui sont en jeu. En tout cas, problématiser, ça permet de rentrer un petit peu dans le détail et de ne pas rester justement sur la façade. En se disant, alors les obstacles de façade, c'est par exemple que cela ne nous regarde pas parce que c'est quelque chose de familial et que ça touche à l'intime et que c'est un problème privé et que l'école n'a pas à y mettre le nez. Donc voilà un obstacle souvent qui est levé. Un autre obstacle, c'est par exemple effectivement la question de la valeur de la langue. Si c'est une petite langue, entre guillemets, un dialecte, on dit de toute façon ça vaut pas le coup, c'est pas intéressant. Ou parfois on dit les parents, de toute façon, même dans leur langue, ils parlent mal. Alors je sais pas de quel point de vue on se place, mais on l'entend souvent ça. En tous les cas, quand ils parlent une autre langue, ils sont souvent meilleurs dans cette autre langue qu'en français, justement. Donc on pourrait partir du principe qu'au contraire, ils sont experts dans leur langue. Donc du coup, quand on problématise, on voit apparaître 3 besoins. Le besoin des familles qui sont très désorientées, qui ne savent pas justement comment faire et qui font du coup de façon très irrégulière, alors que justement une des conditions de réussite d'un bilinguisme, c'est la régularité, la stabilité dans l'organisation linguistique de la famille. Donc les familles sont très en besoin, très en demande, ça je le vois à travers un groupe de parentalité auquel je participe sur ce thème-là à Rieux, et qui est très riche parce que justement on arrive beaucoup à échanger. Les besoins de l'école, parce qu'effectivement on est pratiquement autant démunis que les parents, et la plupart des enseignants devinent plus ou moins qu'il y a du plurilinguisme mais n'en ont aucune idée précise. Et encore récemment j'ai travaillé avec une maîtresse de CM2 et elle était un petit peu sidérée de voir qu'effectivement 25 de ses 25 élèves avaient un contact de langue étrangère et que voilà, elle s'en doutait pas pour la plupart, et pour d'autres elle était quand même étonnée du niveau de langue par exemple qu'ils pouvaient avoir dans leur langue. Donc nous on sait pas trop quoi en faire de ce plurilinguisme, alors qu'en fait il y a pas mal d'expériences qui ont été menées notamment dans les pays qui ont plusieurs langues officielles, hein, comme la Suisse ou le Canada ou l'Italie, où il y a beaucoup de choses qui montrent qu'effectivement c'est une vraie ressource, ces compétences de langue, notamment pour apprendre la langue de l'école, hein, puisque ça reste bien sûr l'objectif, et qu'on n'a pas besoin d'être polyglotte en tant qu'enseignant pour utiliser les autres langues. Et je dirais que moins on est polyglotte et mieux c'est, parce que l'enfant ou le parent devient une ressource cognitive importante. Et bien sûr, besoin pour les enfants, et c'est un petit peu quand j'ai travaillé en psycho, j'ai travaillé sur cet aspect-là. Pour les enfants, c'était un besoin énorme, parce qu'ils sont entre deux mondes, ils sont entre deux cultures, entre deux mondes, ça on l'entend souvent, mais personne ne fait les passerelles justement entre ces mondes pour eux. Donc c'est souvent des mondes qui sont clivés, et le clivage, évidemment, ça conduit à jusqu'à des pathologies dans les cas extrêmes, mais aussi ça conduit à des clivages d'ordre cognitif, et notamment au niveau de la mémoire. Quand on regarde le fonctionnement de la mémoire, on s'aperçoit que s'il y a deux mondes, s'il y a deux espaces sémantiques notamment, le travail de la mémoire, et donc tout ce qui est faire appel à ses ressources personnelles, à ses connaissances personnelles, donc tout le travail finalement, par exemple en lecture, de compréhension fine, hein, les inférences, peut être gêné justement par ce clivage qui n'est pas que culturel, identitaire, mais qui est aussi de l'ordre cognitif à cause de la langue. Et là, on retouche à la question de l'autorisation, hein, pour l'enfant, les trois autorisations, et notamment est-ce qu'il peut s'autoriser à fonctionner dans différentes langues, à faire appel à toutes ses connaissances ou pas. Donc une fois qu'on a problématisé ça comme ça, on a assez vite des solutions en fait qui se dévoilent, des solutions et des actions. Donc trois axes, hein, essentiellement. Donc en parler, tout simplement, c'est-à-dire que ça devienne un objet d'échange et que ça soit pas un objet de gêne ou de honte pour les parents, et de gêne ou de gêne aussi pour les enseignants qui savent pas trop où ils mettent les pieds, qui se demandent s'ils sont légitimes à le faire. Alors oui, ils le sont, parce que nous, on est des professionnels du langage. Donc notamment à travers ce travail, moi j'ai découvert qu'il y avait une grosse confusion entre langue et langage, y compris chez les enseignants, et qu'un enfant en difficulté de langage en maternelle est bien souvent en difficulté de langue, ce qui n'est pas tout à fait la même problématique et qui ne demande pas forcément les mêmes réponses pédagogiques ou didactiques. En tout cas, voilà, on a intérêt à aller voir de ce côté-là pour préciser notre façon de travailler. Donc en parler avec les parents, entre enseignants et aussi avec les enfants, parce que les enfants, ils ont l'impression qu'on s'y intéresse pas. Enfin, c'est pas qu'une impression à mon avis, c'est une réalité, puisqu'on ne sait même pas s'ils parlent une autre langue, ou on ne sait pas comment ils la parlent. On leur apprend l'anglais ou l'allemand, mais ils ont des fois un niveau de langue bien supérieur dans d'autres langues, et ça pourrait être valorisé. Donc en parler avec eux pour qu'ils s'aperçoivent aussi que pour nous c'est pas un problème, que c'est pas un obstacle, que ça peut être quelque chose, ça peut être un appui. Faire exister les langues à l'école, bah pour que justement l'enfant ait l'impression que cette compétence, qui est une compétence de ses parents, de sa famille et de lui-même, est valide et peut être validée aussi d'une certaine manière par sa présence simplement déjà à l'école, par son exposition. Faut se rendre compte que on n'entend pas de langue familiale dans les écoles, ou rarement. Alors évidemment, il y a des expériences de ci, de là, qui justement utilisent ça, mais la plupart du temps, enfin moi j'ai fait 20 ans à Rieux, et je peux vous dire qu'on n'entend pas les langues des familles dans l'école, dans l'enceinte de l'école. Et donc des actions pour faire exister les langues sont très simples, c'est faire effectivement toutes les actions qu'on appelait à une époque l'éveil aux langues, qui sont très intéressantes, qui permettent aux parents notamment de venir à l'école montrer... Parler, montrer la langue, discuter de la langue, faire entendre ces langues. Des actions de comparaison de langues aussi, plutôt au cycle 3, mais qui sont très, très porteuses aussi et très riches, où les enfants justement font des liens entre les différents fonctionnements de langue. Et puis, donc, on en a parlé tout à l'heure, juste en fin de matinée dans le groupe, là. Le sac à histoire, par exemple, où les parents viennent enregistrer des histoires, des albums, et le laissent à disposition dans la classe. Donc évidemment, c'est aussi une manière d'apporter des savoirs familiaux dans l'école, que les enseignants reconnaissent ces savoirs familiaux, et ça donne tout de suite une autre place aux parents. Et donc, je dirais en conclusion, l'idée, c'est d'en faire un objet, un vrai objet, un objet réel de partenariat, dans le sens où on est à parité finalement autour de cette question du plurilinguisme, on est à parité souvent d'ignorance un petit peu, et d'où l'intérêt aussi donc de faire appel à des personnes extérieures. Donc sur la région de Lyon par exemple, vous avez comme partenaire le CREFE, Centre de ressources enfance, famille, école, ou école, famille, enfance, je ne sais plus dans quel ordre c'est. À Lyon 2, Nathalie Blanc et puis d'autres gens, donc notamment à l'IFE, qui travaillent sur ce sujet et qui sont des ressources précieuses pour pouvoir intervenir. Et donc j'ai fait un petit schéma au tableau pour montrer comment justement entre ces trois pôles, hein, la famille, l'école et l'enfant, le langage bien au singulier, sont vraiment à l'intersection de ces trois mondes. Et si on utilise ce levier, ça peut être très riche au niveau de la relation aux parents, donc dans le travail de la parentalité, mais aussi au niveau cognitif, des apprentissages, et d'une manière plus générale, sur un niveau plus, je dirais, sociologique ou politique, sur l'intégration d'une manière positive, donc en s'appuyant vraiment sur les ressources de tous les partenaires, en fait, voilà. Donc, ouais, voilà, je voulais juste vous parler de ça. Après les actions, bah, y a pas mal d'exemples d'actions que je vous ai citées. On peut trouver aussi sur Internet ou à différents endroits.